Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, le podcast 560. Avec moi aujourd'hui, nous avons Thomas en direct de la rédaction.
Tout à fait. Et je
Voilà.
peux vous assurer que Traz se tient tranquille cette semaine.
Très bien, donc pas de Traz qui passe pour remettre sa braguette cette semaine.
Non,
C'est
par contre, il vient de
l'info.
lever un doigt, je vous laisse deviner lequel.
C'est l'info BFM
Le
TV du
pouce,
jour.
parce qu'il est content.
C'est tout à fait ça, c'est tout à fait Traz. Romain aussi est avec nous, toujours en
Bonjour.
direct de Kabukicho, je sais plus comment on dit,
Kamurocho.
Kamurocho, voilà. Toujours prêt à parler de Yakuza, mais ce ne sera pas de Yakuza dont on va parler aujourd'hui. On va parler plutôt de piratage avec, vous le voyez en vidéo, eh bien, notre hacker qui va témoigner à visage couvert. Ah bah non, c'est Johnny One en fait, voilà. Donc c'est Johnny One qui est avec nous en direct du
Bonjour.
boulot. Et donc, tous ensemble, nous allons aborder trois thèmes aujourd'hui. Le premier thème, c'est la PlayStation, puisque les semaines passées, on a parlé de Nintendo, qui commençait à s'agiter un petit peu. On a parlé la semaine dernière de Microsoft aussi, qui a balancé la sauce, et ça a continué d'ailleurs les jours après l'enregistrement du podcast. Eh bien, cette semaine, c'est PlayStation qui était beaucoup plus dans l'actualité, avec plein, plein d'informations qui sont parues ces derniers jours, qu'on va décortiquer tous ensemble. Ensuite, nous
Ouais,
parlerons, eh bien,
ouais.
du test de la semaine.
Oh.
Parce qu'on peut le dire, c'est même le test du mois. Je pense même que c'est le test
Oh,
de la saison.
probablement, ouais. Oui,
Ça sera,
on peut le dire tout ça.
c'est le jeu pour lequel les Japonais vont prendre des jours de congé. C'est Monster Hunter Rise, donc Johnny One est en train de tester, toujours au moment où nous enregistrons. Et dont il va pouvoir nous parler tout à l'heure, avant que Thomas, lui, s'attarde sur un jeu de plateforme qui ressemble beaucoup à Donkey Kong Country, d'après ce que j'ai compris.
Très
C'est
beaucoup.
Kaze and the Wild Mask. C'est bien parce que Kaze, ça me dit quelque chose. C'est la suite d'un autre jeu qui a déjà existé, non? Je sais plus.
Non, mais tu penses peut-être à l'éditeur de vidéos.
Ah, mais oui,
Voilà.
évidemment. Eh oui, ok, d'accord.
Alors, peut-être qu'on dit case, du coup, je ne sais pas, mais ça sonne plutôt japonais quand même.
Ok, bah moi je dirais Kaze,
Moi,
mais je.
je disais Kaze, hein, en parlant de l'éditeur de manga. Après, je sais pas, hein, je me trompe peut-être.
Oui,
Ça
Kaze
dépend,
Animation, c'était.
est-ce que c'est le mot vent en japonais? Donc, si c'est ça, c'est Kaze. Ou si
Bah
c'est un
écoute.
jeu de mots avec une case de BD, c'est case.
Non,
Bah, c'est une lapine.
Ah, bah
Donc
c'est ça alors.
voilà,
Ouais, c'est
je vous
ça, c'est une
laisse
lapine.
trancher.
Bon, on va arrêter de se pencher sur ces considérations pour nous attarder sur le win et le fail de la semaine. Et le win de la semaine, Romain, c'est le win de l'année, c'est le win des derniers mois, le win, on va dire, qui ne s'arrêtera jamais, c'est Animal Crossing.
Eh oui, alors tu vois, tu me prends de court parce qu'il me semblait que c'était ton nom sur le conducteur à la base et donc j'avais pas vu que vous m'aviez refilé le truc, donc je ne sais absolument pas de quoi il est question.
Mais bien sûr que si, Romain, puisque ça fait
C'est un
un an,
record.
un
C'est
an
un
que.
record. Plus de 7 millions d'exemplaires en Europe depuis sa sortie.
Eh oui, c'est assez phénoménal. Donc pour Animal Crossing New Horizons, qui est sorti donc le 20 mars de l'année dernière. Rappelez-vous, l'année dernière, on s'amusait avec des crossovers avec Doom qui sortaient le même jour. On commençait à
Ça, c'est
dire, ah
le
tiens.
jour de mon anniversaire, au passage.
Ah
Voilà.
bah bon anniversaire alors, Johnny. Et on s'amusait aussi du fait que c'était le jeu idéal du confinement. Ça se confirme, Romain, tu viens de le dire. Donc, combien?
Plus de 7 millions d'exemplaires en Europe. Donc ça, c'est un record pour une licence chez nous, une licence Nintendo en l'occurrence. Et bah, moi, je suis pas trop étonné pour le coup. Parce que bah, Nintendo, il est long-seller, hein, on sait ce que c'est. Si tu ajoutes à ça Pandémie, si tu ajoutes à ça Switch, si tu ajoutes à ça carton de Animal Crossing, enfin, toutes les conditions étaient réunies pour que la mayonnaise prenne et qu'elle prenne très bien.
Plus Denis Brogniard, quand même, parce
Ouais,
que.
c'est ce que j'allais dire. Rappelez-vous, c'est
Voilà.
Denis Brogniard qui nous fait la publicité.
La
Tout de
mais
même.
l'entretien thématique sur la durée aussi, pour justement que le succès continue.
Ouais, la pub de la peut-être la plus insupportable que. Viens, viens, je te fais une bombe. Enfin, je sais même
Ouais,
plus
de
comment ils se
ouf.
parlent. De
Ah.
ouf, oh là là. J'ai envie de leur foutre des tartes à tous les deux pendant cette pub. Elle est
J'ai réussi à pas
insupportable.
tomber dessus, alors.
C'est vrai? T'as pas
Ouais.
vu Denis Brogniard qui fait un requin comme ça? Non?
Non,
Bon,
pas
bah tant pis.
encore.
Ah!
Ouais. Bon,
Ah.
bah tant pis.
Mais ça a l'air d'être un sacré niveau en termes d'acteur studio.
C'est
Vous me mettez l'eau à la bouche.
une des meilleures pubs qui a jamais été faite.
Oui, donc c'est le jeu Nintendo qui a réalisé le meilleur score de vente sur une année de lancement en Europe, ce qui n'est pas rien, sachant qu'en Europe, Nintendo est quand même assez habitué à des cartons phénoménaux. Et là, on commence à venir titiller un peu le Mario Kart Land. C'est quand même quelque chose qu'on sait qu'à l'échelle des licences Nintendo, Il y en a beaucoup de très populaires, mais elles n'ont pas toutes le même niveau de popularité. Et on sait que Mario Kart, c'est vraiment le haut du panier. Et Mario Kart 8 Deluxe, en l'occurrence, fait partie des plus populaires de la série. Et donc là, si on arrive à s'en approcher, ça vous montre quand même la taille du phénomène. Et alors après, bon, évidemment, on n'est plus dans l'année de lancement. Mais tout pousse à croire que les ventes d'Animal Crossing New Horizons vont continuer de cartonner dans les mois à venir et on peut s'attendre à un nouveau Noël très puissant pour ce jeu à la fin de cette année.
Mais et peut-être qu'il va dépasser à un moment parce qu'il se tire encore la bourre. Mario Kart 8 Deluxe arrive encore à se vendre par brouette, mais peut-être que lui, il va dépasser Mario Kart en termes de chiffres de vente totale sur Switch, ce qui serait monstrueux parce que, comme tu le dis, Mario Kart, c'est la licence la plus porteuse depuis la Wii. Se rappelons que l'épisode Wii, quand même, est peut-être le jeu de bagnole le plus vendu de tous les temps. Enfin, c'est phénoménal.
Mais il est sorti il y a plus longtemps. Du coup, je pense que ça jouera à terme en faveur d'Animal Crossing.
Ouais. Ce qui est dingue, c'est que Animal Crossing, c'est une licence qui est très populaire et ce depuis longtemps. Mais là, New Horizons, en termes de vente, on est dans une autre galaxie. Je me rappelle, j'avais écrit cette news, je crois, l'année dernière, alors que ça faisait que quelques mois que le jeu était sorti. Je crois qu'il avait déjà dépassé les ventes de plusieurs épisodes de la série combinés, en fait. Le jeu qui a fait passer la licence Animal Crossing dans une autre catégorie en termes de reconnaissance populaire. Enfin, là, maintenant, ça va devenir vraiment un des gros noms de Nintendo, un des très gros noms de Nintendo même. C'est phénoménal. Bien.
Ah oui, c'est extraordinaire et c'est pas fini encore. Il y a encore beaucoup de choses à y faire. Il y a déjà des améliorations à lui apporter. Il y a des contenus à lui donner. Ça ne s'arrêtera jamais. Et d'ailleurs, dans pas très longtemps, il y a le lapin de Pâques qui va revenir et les gens vont pouvoir à nouveau avoir peur de lui et faire des screens chelous avec lui où on lui file des coups de hache. Enfin bref.
On est limite hors sujet, mais j'ai toujours été impressionné par la capacité des gens à transformer l'univers d'Animal Crossing en un truc super malaisant, genre limite flippant. Et là, ça remonte même au premier épisode. Il y a toujours eu des histoires, des fanfics dérivées d'Animal Crossing où tu te rends compte que le truc peut être ultra oppressant, en fait.
Parce que le villageois a une tête de psychopathe aussi, de base.
Oui, il y a ça.
Ça aide.
Et je vous invite à aller voir cette news que j'ai écrite la semaine dernière. En fait, il y a un court-métrage qui a été fait justement sur Animal Crossing où, en fait, c'est une nana qui joue à son jeu sur Switch. Et qui se rend compte qu'il y a une créature à l'intérieur du jeu qui veut sortir de sa console. Et donc, ils en ont fait un petit court-métrage d'horreur comme ça. Et le truc a tellement plu qu'ils vont en faire un long-métrage, en fait, complètement. Alors, pour le coup, je pense que dans le long-métrage, ça ne sera plus une Switch, mais une console qui y ressemble et ça ne sera plus Animal Crossing. Parce que j'imagine assez mal Nintendo se prêter au jeu permettre à un cinéaste d'utiliser son jeu, qui est quand même ultra grand public, pour en faire le fond d'un film d'horreur. Mais bon, je vous invite à aller voir ça, c'est assez original.
Ben moi, je vous invite aussi, mais là, il faut remonter dans le temps, il faut peut-être avoir de la chance à relire un papier qui était paru dans Joypad en 2003 de la part d'un bon copain, Tristan Ducluseau, qui avait raconté son expérience sur Animal Crossing où, en changeant de compte sur GameCube, il se rendait compte que sa copine avait droit à des messages super sympas de la plupart de tous les villageois et que lui, il lui foutait des bâtons dans les roues en permanence, qu'elle avait droit à des cadeaux et lui, rien du tout. Enfin, c'était vraiment un papier extraordinaire qui nous avait pondu.
Mais c'est bon, comme dans la vraie vie.
Bah ouais, c'est exactement ça.
Bref. Je pense qu'il y a des mécanismes et des algorithmes et des trucs dans Animal Crossing dont on n'a même pas idée.
C'est possible. Et là, on parlait de la version GameCube, évidemment. Maintenant, on va passer aux failles de la semaine. Évidemment, c'est Johnny One qui s'y colle. Non, je plaisante.
Ah bon?
Ah putain, comment t'as flippé? Bon, Thomas.
Ah, moi, je comprends bien, j'ai pas lu le truc. Hein.
Thomas, donc, le fail de la semaine. Bah, bizarrement, c'est encore Activision Blizzard. À qui ça revient? Pourquoi? Mon cher Thomas, je te pose la question.
Activision Blizzard qui aime les chiffres ronds. tout est rond chez Activision Blizzard, puisque d'un côté, eh bien, on a vu que Bobby Kotick allait pouvoir profiter d'une rémunération assez exceptionnelle de 200 millions de dollars grâce à tout un tas de bonus suite aux résultats complètement fous d'Activision Blizzard sur la dernière année d'exploitation. Et dans le même temps, il y a près de 200 personnes qui vont être licenciées, dont une cinquantaine spécifiquement dans l'organisation des événements e-sport du côté du groupe. Et voilà, les deux événements, évidemment, mis face à face, ont pu soulever un petit peu quelques protestations du côté des joueurs. Donc c'est pas loin de 2% des effectifs du groupe qui vont du coup être remerciés, avec évidemment quelques petites compensations, comme tu nous le précisais, mon cher Plume, comme un espèce d'accompagnement et puis une mutuelle valable encore une année, mais aussi un incroyable chèque cadeau de 200$ à dépenser sur Battle.net pour les remercier évidemment de leurs bons et loyaux services. Alors il y a... une petite interrogation qui entoure justement le versement des primes de Bobby Kotick, puisque moi j'ai trouvé un site avec une voix discordante qui expliquait que non, le calcul n'était pas tout à fait exact et que la somme était moindre. Elle était plutôt à chercher du côté des 40 millions de dollars. Alors il va falloir évidemment éclaircir tout ça. Toujours est-il que c'est une performance record pour Kotick qui fête quand même ses 30 ans à la tête, en tout cas à son poste, à la tête maintenant d'Activision Blizzard fusionné. Du coup, pour lui, c'est un joyeux cadeau d'anniversaire. Pour tous les autres qui vont devoir retrouver du boulot, c'est évidemment pas la même soupe. Donc, on vous laissera juger du caractère commun de ces deux annonces, évidemment. Activision Blizzard qui, du coup, surfe sur de très, très, très bons résultats. Et un petit calcul aussi qui a été réalisé par Oscar Lemaire nous apprend quand même qu'en 2019, Kotick gagnait 2121 fois le salaire moyen d'un employé d'Activision Blizzard. Voilà, je laisse ça en imaginant que peut-être il y a des gens qui nous expliqueront que il fait 2000 fois plus de travail et de résultats que les employés de base.
Oh, voilà, quand toi t'as 200 euros de découvert, lui il a 2 millions. Voilà.
Non, mais en fait, on peut reprendre toujours le même argumentaire que les défenseurs de Kotick et des gens qui sont plus spécialisés en bourse que nous avancent, à savoir que Kotick, il a pris l'entreprise en main. Depuis qu'il a pris l'entreprise en main, la cotation en bourse a bondi d'une puissance inimaginable. On parlait de millions.
Elle est très élevée.
Voilà. Il l'a prise, on parlait peut-être en millions de dollars. Maintenant, c'est plusieurs milliards de dollars. Et c'est des chiffres d'affaires phénoménaux, encore une fois. Bref, à partir de ce moment-là, oui, un chef d'entreprise peut mériter d'avoir une rémunération et des bonus importants. Le problème, c'est que comme dans ce monde, on n'a jamais fixé de limite pour quoi que ce soit et qu'on estime raisonnable que des personnes puissent accumuler toutes des richesses qui pourraient, aider à d'autres niveaux plutôt que de servir une seule personne et un seul intérêt.
On dirait ruisseler.
Voilà, le ruissellement, ça n'a jamais fonctionné. C'est de la connerie, tout le monde le sait.
Mais non, moi, je suis pas d'accord, parce que si vous vous rappelez l'année dernière, il y avait quand même un actionnaire qui avait justement un petit peu fait part publiquement de son mécontentement et demandé justement pendant une assemblée à ce qu'on rabaisse un petit peu la rémunération de Kotick.
C'est pareil, ils sont intervenus encore cette année.
Pas été suivi des faits, ça avait été évidemment refusé et on est du coup dans la situation qu'on vient de vous décrire. Ouais. Voilà, donc joyeux anniversaire, mon cher Robert.
Exactement, bon anniversaire et bravo. Pour toutes ces belles années qui permettent encore une fois de licencier 200 personnes après avoir licencié déjà beaucoup, tout en promettant environ 2000 embauches du même côté dans d'autres secteurs. Mais bon, encore une fois, ça se trouve, ces embauches concerneront justement les emplois qui ont été perdus ces derniers temps, parce que l'e-sport reviendra bien un jour et les autres domaines qui sont touchés peut-être aussi.
Rien n'arrive par hasard, puisque les meilleures années justement en bourse d'Activision Blizzard, c'est celles où l'entreprise a le plus licencié.
Bon, c'est peut-être pour ça, alors. Bon, on va parler de choses un peu plus agréables maintenant, espérons, avec le premier thème. Et le premier thème, je vous le disais juste avant qu'on parle de Monster Hunter Rise et de Kaze and the Wild Mask, nous allons parler de PlayStation qui contre-attaque après avoir laissé, un peu de temps à Nintendo. La semaine dernière, beaucoup de temps et beaucoup d'occasions à Microsoft et la Xbox de s'exprimer, et très fort en plus. Hein, on réécoutait le podcast de la semaine dernière et rematait les news. Microsoft avait vraiment fait un bon travail de bourrin la semaine dernière. Eh bien, c'est au tour de PlayStation de s'activer pas mal. Et la première des nouvelles, on va dire, qui font que les joueurs PlayStation peuvent se sentir, on va dire, privilégiés, aimés, choyés, eh bien, c'est le retour, plutôt le renouvellement de l'offre Play at Home qui avait déjà eu lieu l'année dernière, qui a été redémarrée, on va dire, il y a quelques semaines en permettant d'acquérir Ratchet & Clank gratuitement. Et d'ailleurs, c'est encore possible, je crois, jusqu'au 26 mars, parce que c'est jusqu'à cette semaine en fait, tout simplement. Et bien maintenant, il va falloir se préparer en fin de semaine, à partir de 4h du matin jusqu'au 23 avril à 5h du matin, à récupérer une dizaine de jeux. Messieurs, est-ce que vous les avez en tête?
Je les ai sous les yeux, si vous voulez.
Voilà.
Alors. Res Infinite, ouais. Abzu, The Witness, alors ouais. Attends, c'est écrit tout petit, Hunter the Gungeon, ouais. Subnautica, alors ça ce sont les jeux qui ne sont pas en VR, et en VR vous avez Moss, Astrobot Rescue Mission, Paper Beast et Thumper.
Et ben quand même, voilà. Et ça c'est les 9 premiers jeux ouais. qui vont arriver, puisqu'il y en aura un dixième qui lui arrivera le 20 avril. Jusqu'au 15 mai, c'est Horizon Zero Dawn Complete Edition, qui d'ailleurs, si je ne m'abuse, était déjà offert avec la PlayStation Plus Collection sur PS5.
C'est si peut-être pas la Complete Edition dans la PlayStation Plus Collection.
Je crois que
c'est. À vérifier. Tu penses?
Je crois que c'est. Bon, bref, ça fait quand même 10 jeux assez énormes, dont quand même Astrobot, pour ne citer que lui, qui est un des plus grands jeux du PlayStation VR, Paper Beast qui est sorti l'année dernière, qui est donc assez récent. Res Infinite qui reste lui aussi une expérience géniale, et avec PlayStation VR en plus pour le mode Infinite justement.
Moss très chouette aussi.
Moss très chouette. The Witness pareil, encore un jeu donc nouvelle offre encore une fois fort sympathique pour rallier à leur cause des joueurs PlayStation et en cas de confinement, avoir des choses pour s'occuper.
Ouais, ce que m'inspire ce truc-là, soit dit en passant, si vous avez un PSVR, qu'attendez-vous pour jouer à Astrobot ? Vraiment. Ce que m'inspire ce truc-là, c'est un message à envoyer aux fanboys qui détestent viscéralement Xbox. Si vous détestez viscéralement Xbox et tout ce que Microsoft peut faire dans le jeu vidéo sur console, eh ben en tout cas, si vous avez un truc comme Play at Home, c'est en partie grâce à Microsoft et au forcing qu'ils font avec leur Game Pass et avec leurs offres de jeux relativement bon marché. Parce que je pense que s'il n'y avait pas une concurrence acharnée comme ça en termes de service, Sony ne se donnerait certainement pas le mal d'offrir des jeux comme ça et des jeux de qualité de cette manière. Dites-vous bien qu'en position ultra dominante, sans concurrence, avec des services séduisants, ils ne feraient certainement pas ça. Donc voilà, même si vous ne jouez pas sur Xbox et que ça ne vous intéresse pas, etc., réalisez quand même bien que grâce à la concurrence sérieuse, c'est de cette manière-là qu'on obtient des offres de ce type.
Et puis après, ça arrive à un moment assez opportun aussi. Hein. Tu l'as dit, Plume, les gens qui, comme moi, n'ont pas fait Horizon Zero Dawn, par exemple, vont pouvoir en profiter pour peut-être se mettre à jour et profiter de la suite. Et surtout, on a mentionné les jeux PSVR qui sont dans cette liste. Pour ceux qui auraient envie de ressortir leur casque ou peut-être même d'en acquérir un à moindre frais, on a quand même une pléthore de titres hyper intéressant justement qui sont sortis sur le support et qui permettent vraiment de se faire une idée de ce que la réalité virtuelle peut apporter sur console. On a vraiment une sélection qui est, je trouve, très pertinente et qui arrive à un bon moment.
Alors je vais juste rebondir vite fait, Romain, sur ce que tu dis.
Excuse-moi, je t'ai coupé.
Je te trouve un peu vachard par rapport à Sony, puisque l'initiative Play at Home qui avait commencé l'année dernière s'est servait aussi à pouvoir financer, aider des développeurs indés. Donc c'est pas quelque chose qu'ils ont, enfin c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait l'année dernière quand ils avaient offert Uncharted et je ne sais plus quel autre jeu de cette façon, et Journey je crois, je me rappelle. Donc je pense que effectivement il y a peut-être une envie d'aller en frontal avec Microsoft et le Game Pass, mais c'est pas la motivation première, je pense. Je pense qu'il y a aussi une envie vraiment de faire plaisir et évidemment de soigner son image au passage.
Oui, voilà. Moi, je pense que rien n'est fait par pure bonté d'âme dans le monde des affaires. Et alors, je me souviens plus de la personne qui avait dit ça, mais c'était dans une conférence sur le marketing et le business, etc. Il y a 2-3 ans. C'était pas dans le jeu vidéo, hein, mais ça s'applique assez bien. Qui disait que l'avenir du marketing et de la communication, etc., passait par la charité. En fait, c'était à notre époque, là, maintenant, un des meilleurs moyens de faire sa promo et de faire avancer ses affaires, etc., c'était de participer à des bonnes œuvres et de faire des gestes comme ça. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce type d'opération se multiplie, en fait. Les trucs de charité, les machins, que ce soit des streams ou des offres de jeux et des trucs avec des retombées financières pour les associations et machin, ça n'arrête pas. Il y en a partout, tout le temps. C'est de plus en plus présent dans le jeu vidéo et c'est pas pour rien.
Je vois peut-être
le mal un peu partout, mais c'est juste qu'on on rate jamais une occasion d'être déçu les mauvaises surprises, quand on les attend, elles sont là. Donc moi, j'ai tendance à penser, et là je dis pas spécialement pour Sony, hein, je parle pour tout le monde d'une manière générale, je pense que ces trucs là ne sont pas totalement désintéressés.
Ah bah, il vaut mieux qu'il y ait quand même un retour qui soit médiatique ou business, hein, de toute manière. Encore une fois, c'est pas des œuvres de bienfaisance de ces entreprises.
Après, je critique. Enfin, je critique pas au sens où si ça peut servir à des associations, tant mieux. Et si là, en l'occurrence, ça peut donner accès gratuitement à des jeux de qualité, eh ben tant mieux aussi. C'est juste que il faut bien garder à l'esprit que dans ce genre de situation, tout le monde y trouve son compte. D'une manière ou d'une autre.
Bon, bah en tout cas, nous, moi, je le trouverai. Hein, j'irai les choper dès qu'ils seront disponibles. Je vous le dis tout de suite. La deuxième grosse annonce de la semaine, et Dieu sait que c'est une grosse annonce, c'est la première présentation officielle de ce qu'on pensait qui allait être des bananes. Bon, bah, c'est pas des bananes, on est un peu déçus. C'est les contrôleurs du PlayStation VR 2, qui ne s'appelle pas encore PlayStation VR 2, puisqu'il n'a pas encore de nom, c'est la prochaine expérience PlayStation VR. Et donc, ça y est, on sait à quoi ça ressemble.
Tu blagues sur les bananes, mais mine de rien, ce qui a été présenté officiellement par Sony, ça se rapproche sacrément de certains brevets qu'on a pu voir
au cours des
derniers mois. Donc,
mais je pensais vraiment que ça allait être des vraies bananes, moi. Je me disais, ça y est.
Non, ce que je veux dire, c'est que le truc de banane, ça peut surprendre, le concept, etc. Mais ça ne serait pas étonnant que ce système de projection virtuelle de touches sur des objets du quotidien pour en faire des contrôleurs un peu simplifiés pour certains jeux, ça ne m'étonnerait pas que ça se concrétise dans les années à venir aussi. Et tout ça pour souligner que ce que Sony a présenté, c'est quasiment identique à ce qu'on a pu voir sur au moins certains des brevets qu'on a pu éplucher au cours des derniers mois. Et les fonctionnalités sont super intéressantes. Même si, pour ceux qui ont déjà utilisé des casques de réalité virtuelle sur PC, pour certaines choses, c'est quand même assez proche de ce qui est déjà disponible sur PC. Avec les ajouts en plus propres à la manette PS5.
Quelqu'un peut me décrire donc ce qu'on a vu, du coup ?
Ouais, alors le terme qui a été employé par Sony lui-même, c'est la notion d'orbe, pour décrire justement des contrôleurs sphériques qui sont assez étonnants, hein, en termes de design, c'est assez léché. Mais effectivement, comme le disait Romain, ça s'inspire de ce qui se fait, que ce soit du côté de l'Oculus ou du Valve Index, avec justement l'apport de toutes ces spécificités dites haptiques qui sont justement présentes dans la DualSense. En tout cas, ça a été présenté comme ça. On va retrouver justement ces gâchettes adaptatives avec cette force, cette résistance qu'on a tous déjà pu un petit peu expérimenter. On va les retrouver justement sur ce double contrôleur PSVR 2. Le retour haptique, donc, on l'a dit, mais aussi justement quelques technologies empruntées aux autres manettes de réalité virtuelle, c'est la détection des doigts sans avoir besoin de configurer quoi que ce soit. Donc on imagine qu'on va pouvoir profiter d'un petit peu plus de finesse, d'un petit peu plus de précision en jeu, sans doute pas au niveau de ce que peut faire Valve et de ce qu'on a pu découvrir dans le dernier épisode d'Half-Life, mais en tout cas on sent que par rapport à la première version, celle qu'on connaît, est héritée même de la PlayStation 3, puisqu'on a commencé avec les Move, hein, mine de rien, en réalité virtuelle, on franchit quand même un petit gap et on se rapproche de ce qui se fait plutôt sur PC. Et c'est un gage de qualité. Et le côté feuilletonnage est aussi intéressant parce que là, on a pu découvrir les manettes et c'est tout. On sait que Sony en garde un petit peu sous la pédale. On sait que de toute façon, le nouveau casque de réalité virtuelle ne va pas arriver cette année. Il sera sans doute présenté, mais il ne va pas sortir pour cette année 2021. Donc voilà, on a une manière d'occuper le terrain aussi qui est assez intéressante. Et moi, ce que je trouve de plus marquant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais en termes de design, c'est un objet qui est quand même très, très réussi, je trouve, assez léché.
Assez ergonomique, ouais. Enfin, visuellement, à première vue, ergonomique. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ça arrive si tôt. Je pensais, quelques semaines après l'annonce, l'officialisation du nouveau PlayStation VR, même si on se doutait qu'il allait venir, je ne pensais pas qu'ils allaient présenter les manettes si rapidement. Donc, je ne m'attendais pas à un rythme si soutenu.
Mais c'est pour donner confiance en l'avenir, je pense. Donner des gages aux joueurs, dire, regardez, on travaille vraiment dessus, on n'en a pas encore parlé, mais... C'est vraiment un chantier qui nous occupe.
En tout cas, c'est super intéressant. Et, c'était, et quand tu gardes à l'esprit la qualité des expériences que tu pouvais avoir sur le PlayStation VR avec soit une manette normale, soit avec un PlayStation Move, si tu passes un gap en termes de sophistication avec ces manettes-là et le talent que certains développeurs peuvent avoir en termes de jeux VR, j'ose même pas imaginer ce à quoi on va avoir droit sur ce nouveau PSVR. Par exemple, évidemment, parce que c'est un de mes jeux préférés, mais j'espère sincèrement que Asobi va nous faire un nouveau Astrobot qui exploitera Astrobot ou éventuellement un autre jeu en VR si leur inspiration les porte ailleurs. Mais voir ce que Asobi va être capable de faire en combinant réalité virtuelle plus cette nouvelle manette, ça me fait saliver. Bon, moi, je suis un défenseur de la VR et je crois en la VR depuis le début. Et donc, toutes ces annonces me réjouissent fortement et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
Et imaginons aussi un Resident Evil 7 ou 8 qui pourrait passer par ça plutôt que par la manette. Ce serait assez phénoménal. Pas vrai, Johnny?
Tout à fait. Voilà. Exactement.
La détection des doigts, ça c'est intéressant. La détection des doigts combinée aux gâchettes haptiques, etc., ça peut vraiment créer des sensations en main saisissantes. Et donc, ouais, les possibilités sont immenses.
Maintenant, on va y gagner en immersion.
Il faut voir comment ils vont comment dire, les exploiter. Parce que il faut aussi garder à l'esprit que même si le PlayStation VR, c'est un casque qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires, si tu prends sur le pourcentage total des acheteurs de PS4, ça reste quand même un pourcentage très réduit. Ce qui limite forcément les investissements faits par les développeurs en termes de jeux sur le PlayStation VR. Alors Sony
c'est différent. Tu peux m'en compter deux pour moi de casque. Ouais. En plus.
Ouais, mais tout le monde n'a pas fait ça. Et tu vois, les Sony, évidemment, lui, a tout intérêt, vu que c'est son produit créé et en interne, ils ont tout intérêt à faire des jeux de qualité sur PlayStation VR. Pour les éditeurs tiers, la motivation, elle est quand même plus mesurée. Donc, il faut espérer qu'en termes d'ergonomie, de simplicité de branchement et d'utilisation, et même de politique tarifaire, il faut que le PlayStation VR 2 soit particulièrement intéressant pour le grand public, pour qu'il se vende plus que le premier PlayStation VR. Pour nous, en lien de cause à effet, on arrive à avoir des jeux peut-être plus nombreux déjà et qui exploitent encore plus le PSVR. Parce qu'on sait que le potentiel est là. Après, il faut que les éditeurs et les développeurs se donnent les moyens de les exploiter.
Mais justement, l'arrivée de ces nouvelles manettes, elle va peut-être permettre à certains éditeurs de passer par le portage de jeux qui avaient d'abord été pensés pour PC, qui vont peut-être plus facilement s'adapter justement à ces manettes haptiques. Et du coup, ça pourrait élargir justement le portefeuille de titres. Et je suis d'accord avec toi, c'est tout à fait compréhensible que les éditeurs ne prennent pas de risque avec un périphérique qui a une base pour l'instant installée, qui est quand même encore assez faible, même si il y a évidemment beaucoup de jeux de qualité qui sont sortis. On n'est pas face à une offre qui soit si démentielle que ça pour l'instant. Donc espérons que ça change.
Ouais, j'ai par exemple le Lone Echo en tête, le jeu de Ready at Dawn qui était sorti que sur PC. avec cette manette-là, c'est sûr, il sortira sur Play. Et les joueurs Play vont pouvoir découvrir ce jeu qui est vraiment top.
Et, Valve peut faire aussi son retour sur console avec un Half-Life Alyx qui en profiterait aussi. Hein. On a plein de possibilités, évidemment. Mais ça, pour savoir comment ça va se passer, on attendra encore quelques semaines, quelques mois, pour voir ce que Sony nous réserve, ne serait-ce que pour savoir à quoi ressemblera le casque, déjà pour commencer, et comment s'articulera cette idée d'un seul câble pour relier au casque, qui est très intrigante, parce que vu le bordel que c'est avec le premier PlayStation VR, c'est une autre histoire.
Je crois que c'est Matt, un dernier truc, je crois que c'est Matt Piscatella de NPD qui partage souvent beaucoup de chiffres sur... alors je ne sais plus si c'est lui ou si c'était Michael Pachter, enfin je sais que c'était un analyste assez célèbre qui disait que en termes de quantité de casques vendus, il faut que Sony multiplie par 4 ou 5 les chiffres de vente du PSVR pour que ça devienne un peu intéressant pour le, vis-à-vis des éditeurs tiers, etc., de proposer des jeux dessus. Voilà, c'est tout. Donc, il y a du chemin.
Ouais. Bon, on va passer à la suite. On va accélérer pour Johnny, donc. La news d'après, c'est une surprise au regard des dernières semaines, puisque Jade Raymond, ouvre un nouveau studio. Et oui, comme les deux dernières fois où elle l'a fait, elle va ouvrir un studio pour un nouveau jeu AAA qui sera une exclusivité PlayStation. Donc, c'est encore, on va dire, une grosse annonce de la part de Sony.
On ne sait pas si c'est AAA.
Ah bon ?
Ils ont dit, déjà, ils se présentent comme un studio indépendant avec des gens qui ont de l'expérience sur du AAA.
Ah, autant pour moi alors.
Ce qu'on sait, c'est que ça sera une nouvelle licence, une nouvelle IP.
Ah, quand on te vend l'expérience des développeurs sur les AAA dans un studio, c'est jamais très bon signe.
Ouais. Bah, apparemment, ce sont des gens avec qui Jade Raymond a déjà travaillé par le passé, qu'elle connaît bien. Alors, j'imagine que dans l'eau, doit y avoir pas mal de gens qui étaient avec elle chez Stadia et qui ne sont pas restés, comme on le sait. Et donc, à voir. Alors, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit sourire en coin quand il s'agit maintenant de Jade Raymond qui rejoint un studio et qui se lance sur un nouveau projet, parce qu'on va dire que ces deux ou trois derniers projets n'ont mené à rien, ne sont pas sortis. Alors, ce n'est pas forcément de sa faute à elle, hein. Tenons-nous bien de porter ce genre d'accusation, mais en tout cas, mine de rien, elle n'a pas eu trop de chance sur ses derniers projets, donc
elle fait un peu chat noir. Hein. Elle fait vraiment un peu chat noir.
Il y a quelques semaines, on en plaisantait justement quand on parlait de Stadia et de la fermeture du studio dédié dont elle avait la présidence. On rigolait en disant, vous imaginez la tête des développeurs qui vont la voir arriver justement pour leur dire, c'est moi qui reprends le bébé, en se disant, eh merde, ça y est, c'est fini, on va mettre la clé sous la porte. Là, évidemment, on attend de voir. J'ai regardé le dernier titre sur lequel elle est travaillée de près ou de loin, qui soit sorti dans le commerce, c'est Battlefront 2. Voilà. Donc la dernière grosse, c'est listé et c'est la dernière tempête de matière fécale qu'il y a eu du côté de chez Electronic Arts. Donc voilà, on espère qu'elle va réussir à casser ce cycle infernal pour elle et surtout pour les gens qui travaillent avec elle.
Elle occupait quel poste elle occupait quel rôle sur Battlefront?
Ça devait être Motif qui a filé un coup de main, non?
Ouais, parce que elle avait son propre jeu Star Wars en chantier pendant un temps.
C'était du general managing, c'était un poste. Pas directement impliqué dans le développement, mais en tout cas, ça apparaît sur son CV. Donc voilà.
L'autre, encore une fois, une autre grosse annonce, mais alors pour le coup, une annonce coup de poing, j'ai envie de dire, c'est l'acquisition des plus gros tournois de jeux de baston de l'univers par Sony, une fois de plus. Là, Thomas, je me tourne vers toi parce que je crois que tu en sais un peu plus que moi.
C'est sorti de nulle part. Ça a été annoncé effectivement la semaine dernière. Sony rachète l'Evo Championship Series. Le tournoi, évidemment, était un petit peu mal en point. Hein. C'était sans doute un moment assez stratégique et assez habile pour en faire l'acquisition, parce qu'on sait que l'édition 2020 avait dû être annulée. Les sponsors s'étaient retirés. Il y avait en plus eu une suspension de son président après des accusations de harcèlement sexuel sur mineurs. Bref, on avait un cocktail de choses qui n'allaient pas et qui avaient laissé le tournoi un petit peu exsangue. Et du coup, Sony s'offre l'Evo. Alors, en précisant évidemment d'emblée, puisque c'est la première question qu'on a pu se poser, que le tournoi resterait a priori ouvert à tous, donc comprenez à toutes les plateformes, ça veut dire les consoles de chez Microsoft et évidemment le PC aussi. Alors, Nintendo est sans doute concerné, mais pour l'instant, le constructeur japonais ne prend pas part sur les dernières éditions de ce tournoi. On sait que le netcode du côté de chez Nintendo, c'est un petit peu compliqué. Mais donc voilà, ça devient la propriété de Sony, qui a aussi donné un petit peu des gages de sa bonne volonté en expliquant que les fondateurs de l'événement, donc Tom et Tommy Cannon, seraient toujours là à titre de consultants, donc à superviser quand même un petit peu l'organisation de la prochaine édition, qui d'ailleurs a déjà été datée puisque l'édition 2021 de l'Evo se tiendra en ligne, évidemment, d'abord du 6 au 8 août et ensuite du 13 au 15. Donc les jeux qui ont été pour l'instant annoncés, c'est Tekken 7, Street 5 dans cette Champion Edition, Mortal Kombat 11 et le très attendu Guilty Gear Strive. Donc on attend évidemment de voir quelle forme ça va prendre, et je pense que de toute façon il faudra sans doute attendre quelques éditions pour voir si le fait que Sony ait mis des billes là-dedans va transformer ou non le championnat. En tout cas, c'est vraiment le truc que je pense personne n'avait vu venir dans la politique de rachat tous azimuts qui caractérise désormais les grands constructeurs de cette industrie. Je pense que personne ne s'imaginait voir Sony racheter le plus gros tournoi de versus fighting de l'univers.
Effectivement, personne. Par contre, on pouvait s'attendre à quelque chose. On va passer à la news suivante côté PlayStation. C'était le lancement de la PS5 qui, malgré les problèmes d'approvisionnement, qui continue de toucher l'industrie. Là encore, aujourd'hui, là, au moment où on se parle, le 23 mars, il y avait des PlayStation 5 ce matin sur Amazon, un peu partout en Europe. Bon, elles ont disparu en 3 minutes à chaque fois. Et si vous vouliez avoir autre chose qu'un message d'erreur, il fallait être très doué. C'est aux États-Unis que ça se passe, Romain. Le lancement a été encore une fois un record.
Parce que ça, c'est encore un truc qu'on a tendance à oublier à cause des pénuries. C'est qu'au lancement de la PS5, Sony n'avait jamais mis, enfin, par rapport à ses précédents lancements, n'avait jamais mis autant de consoles sur le marché pour un lancement. Donc, ils n'en ont certainement pas mis autant qu'ils le souhaiteraient, vu la demande, etc. Mais malgré les ruptures, etc., ça ne veut pas dire qu'il y avait moins, par exemple, moins de PS5 sur le marché que de PS4 au lancement. C'est juste qu'il y avait énormément de demandes. Et on sait dans la stratégie de Sony que, par exemple, beaucoup de consoles ont été dirigées vers les États-Unis, que l'accent a été mis en termes de disponibilité sur le marché américain. Et visiblement, ça a bien servi à Sony, parce qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est la console qui se vend le plus rapidement de l'histoire du marché américain. Rien que ça. Donc ça, c'est quand même assez, pharaonique comme statistique. Alors après, la console est vendue à un certain prix. Enfin, un des deux modèles est vendu à un certain prix. Donc ça joue aussi. Mais en termes de nombre de consoles vendues, là aussi, ils sont quand même dans un bon trend, comme on dit. C'est que pour l'instant, après 4 mois de présence sur le marché, la PS5 est la console qui est la deuxième console la plus vendue de l'histoire des États-Unis à période équivalente, tu vois, au bout de 4 mois de présence sur le marché. Et d'après Matt Piscatella de NPD, elle est vraiment à moins d'1% de la console qui a la première place de ce classement-là. Donc, c'est quasiment la console la plus vendue en 4 mois de présence sur le marché.
S'ils avaient eu du stock, ils auraient été numéro 1 sans aucun souci, du coup.
Certainement, oui. Donc, et malheureusement, ils ne précisent pas quelle est la console numéro 1. Donc, quand on sait qu'elle est numéro 1 en termes de chiffre d'affaires, ça veut dire que la console qui est numéro 1 en termes de vente, qui est juste devant la PS5, c'était certainement une console qui se vendait moins cher à son lancement. Donc on peut certainement supposer une console Nintendo.
Oh bah là oui, franchement, là oui, quand on se rappelle les ruptures de stock aussi à l'époque de sa sortie, ça, c'était quand même assez phénoménal. Mais la PS2 aussi, ça pourrait être la PS2. On sait jamais.
Ça pourrait être la PS2 aussi. Mais en tout cas, là, les choses se passent très très bien pour la PS5 en Amérique du Nord, ce qui a tendance à donner raison à Jim Ryan, qui s'attelle depuis des années maintenant à axer son business et ses décisions sur le marché américain. Pour l'instant, ça porte clairement ses fruits.
Bon, on va passer à la toute dernière news qui nous concerne par rapport à PlayStation. Avant de passer au test de Monster Hunter Rise et de Kaze and the Wild Max, eh bien, on va parler de la possible fermeture des stores, des PlayStation Store, PS3, PS Vita et PSP, qui serait probablement pour cet été. C'est le site The Gamer qui évoque une source Lui aurait annoncé ça, à savoir que sur PSP et PS3, les stores devraient s'arrêter le 2 juillet prochain, et sur PS Vita, qui a un peu plus de chance, on va dire, ça n'aurait lieu que le 27 août prochain. Mais néanmoins, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ces éventuels arrêts, à savoir qu'est-ce que vont devenir, tout simplement, eh bien, tous ces jeux, tous ces DLC qui vont s'évanouir, quoi. Tout ce qui est dématérialisé va disparaître. Johnny, t'as l'air parfaitement
fou. Ouais, moi, je suis un peu catastrophé par cette nouvelle. J'ai des plans d'achat, par exemple. Tiens, je sais que sur PS3, j'aimerais beaucoup me faire Drakengard 3 avec tous ces DLC. Il y a 5 DLC. Le jeu, je l'ai. Les DLC, je ne les ai pas. Il faudrait que j'aille acheter les DLC sur le store avant cet été. Parce que qui me dit que ce jeu-là serait réédité sur Play 5? Qui le dit, ça? Personne, rien du tout. Voilà. Donc, si je veux pouvoir être sûr de pouvoir faire mon rétro gaming dans 20 ans, Jumeau, tu devrais couper ton micro, je crois. T'entends fouiller dans ton tiroir.
Attention. Pas du tout. Pas du tout.
Oui, il y avait un bruit, il y a un bruit de papier.
Ouais, de papier. Donc, je disais, ce jeu-là, là, ce Drakengard 3, je prends lui pour exemple, parce que c'est lui qui a ses 5 DLC sur PS3. Si tu veux pouvoir y jouer dans 20 ans, en rétro gaming, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut que tu ailles acheter le jeu maintenant. Parce que qui te dit qu'il va être réédité, celui-là, vu que c'est un tout petit jeu, qu'il fait partie d'une toute petite saga, une toute petite série qu'on connaît pas du tout. Enfin, bref, ce truc-là va peut-être falloir que tu t'en occupes maintenant. Il y a un autre truc sur lequel ça me fait encore plus mal au cœur, c'est la PS Vita, qui, elle, est un peu plus récente comme machine. Elle a un peu moins d'années au compteur que la PSP et la PS3. J'ai pas mis de Vita à vous montrer, je suis désolé, là. Aujourd'hui, moi, je suis parti avec ça. Voilà, la Switch. Monster Hunter. Donc, cette PS Vita, moi, que j'aime de tout mon cœur, hein, elle va perdre son store, pareil. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire que les cartouches, le prix des cartouches va commencer à s'enflammer. J'ai pas de vrais chiffres en tête. C'est des chiffres que je ferai peut-être un jour, ces statistiques-là. Je les ai pas aujourd'hui. J'imagine qu'il y a à peu près, je dirais, un tiers des jeux qui sont du démat sur cette machine. Entre un quart et un tiers de jeux qui ne sont sortis qu'en dématérialisé. Donc, s'il y a un de ces jeux-là qui vous branche, tiens, j'en cite un au hasard, encore une fois, Horeshika Tainted Bloodlines, qui est un jeu exceptionnel, un RPG stratégique, bref. Ce jeu-là, si vous le voulez, il existe en français en plus, il faut l'acheter maintenant, là. Parce que si vous ne le prenez pas maintenant et que vous ne le téléchargez pas sur votre console, vous ne pourrez jamais y jouer. Pourquoi vous ne pourrez jamais y jouer? Parce que la cartouche, elle n'existe pas. Voilà. Si la cartouche, elle existe, mais elle existe en japonais. La langue, c'est du japonais sur la cartouche. Donc, si vous voulez une version occidentale de ce jeu, c'est hors des maths et c'est maintenant. Parce que ça, clairement, c'est tellement un truc de niche que vous ne pourrez jamais le retrouver sur une autre machine. Ce ne sera jamais réédité. Enfin, voilà. Donc là, on risque de perdre une partie de notre culture, en fait, en vrai. Une qui risque tout simplement de passer à la trappe. Voilà. Un peu comme ce qui s'est passé avec Flash, là, en début d'année, où on a perdu, je pense, une bonne partie de l'Internet mondial.
Il y a deux ans, il y a le WiiWare qui fermait ses portes aussi. Tu avais eu justement une vague de... Les gens s'étaient rendus compte de ce qui allait se passer et s'étaient, du coup, rués dessus. On a vu des listes de jeux incontournable qui arrivait sur le net. Je pense que là, on va avoir à peu près la même chose.
Alors,
on sait à quel point il y en a sur Vita. Il y a une liste de jeux absolument incroyable à faire, notamment en démat. Et moi, on parle de la préservation. Moi, il y a un autre truc qui m'inquiète parce qu'il se trouve que j'ai ressorti ma PSP l'autre jour. Alors, c'était pas en prévision justement de ce truc-là. Et j'ai été victime de cette vague de chargeurs, et de batteries gonflées. Il y a toute une partie de la production de PSP où en fait la batterie a gonflé toute seule et a fait sauter un petit peu le cache en plastique.
Moi ma batterie est plus dans ma PSP parce que ça avait gonflé et ça elle tient plus dedans, ouais. En fait.
Voilà, donc
moi j'ai eu la chance, ça m'est pas arrivé.
On touche à un vrai problème. Tu parlais, Johnny, du fait de télécharger justement ces jeux, et encore faut-il que ta console tiennent le coup dans le temps pour pouvoir peut-être dans 20 ans ressortir Drakengard 3 sur PS3 et en profiter comme les vieux schnocks que nous serons à ce moment-là.
Bon, moi, ce que j'espère là-dedans, c'est qu'on aura quand même des gens qui vont numériser tout ça, toutes ces données, les mettre de côté pour qu'on puisse les réutiliser ailleurs. Voilà. qu'elles se perdent pas forcément. Sur les consoles, je pense que nos PS3, nos PS4, nos PS5, faut pas trop compter dessus dans 30 ou 40 ans. C'est pas des NES. Ça n'a pas été fabriqué pareil. Ça n'a pas été dimensionné pareil. Tiens, je parle un peu de mon autre métier. Clairement, il y a 30 ans, on savait pas faire des consoles. Et vu qu'on savait pas les faire, on les faisait costauds. Aujourd'hui, on sait les faire. Donc, on fait des trucs tout pourris. Voilà. Donc, la préservation, en fait, en vrai, est-ce que ce sera vraiment un si grand problème que ça dans 20 ans? Puis, de toute façon, dans 20 ans, où est-ce qu'on sera avec le Covid, machin, etc.
Ah, mais oui, on sera tous morts, c'est vrai.
De toute façon, voilà, ce sera Mad Max. Donc, en vrai, non, mais... ta console, ta collection de jeux vidéo.
Il n'y a pas de console dans Mad Max?
Non, il n'y a pas de console dans Mad Max. Dans Mad Max, quand tu trouves une DS, malheureusement, le jeu à l'intérieur, c'est tectonique. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette blague. Voilà.
Là, je pense qu'on est aussi on s'inscrit aussi dans la politique de Jim Ryan, qui méprise totalement le jeu rétro, etc. Il y a toujours cette citation de lui qui vient, qui dit, mais en regardant la PS1, la PS2, la PS3, il dit, mais qui pourrait avoir envie de jouer encore, de jouer à ça? Donc, on voit qu'on est dans une optique totalement à l'opposé de ce que fait Xbox en termes de préservation du jeu vidéo et de la rétrocompatibilité et du passage assuré d'une génération à l'autre. C'est pas dans les soucis de PlayStation. Donc, eux, leur intérêt, c'est que vous jouiez sur la PS5 et que vous achetiez vos jeux sur PS5, etc. Que
vous s'en foutent que tu puisses continuer à jouer à
Que vous puissiez jouer ou pas à vos anciennes machines. C'est le cadet de leurs soucis. On pense par exemple aux possesseurs de la PSP Go qui doivent bien s'amuser aujourd'hui avec cette annonce. Et en plus,
ils la craqueront, t'en fais pas, Romain.
Ce qui m'inquiète encore plus dans cette histoire-là, c'est que j'ai vu ça circuler sur des techos qui s'y connaissent bien, échanger entre eux à ce sujet. C'est que oui, donc sur PSP ou sur PS3 par exemple, si vous téléchargez le jeu le contenu auquel vous voulez jouer avant l'échéance, ça fonctionnera. Mais par exemple, vu comment la PS4 a été construite, même les jeux physiques dont vous disposez, si Sony décide un jour, ce qui arrivera certainement, de fermer ses serveurs, la connexion, un truc comme ça, même les jeux physiques, vous ne pourrez plus y jouer sur votre PS4. Donc, à terme, potentiellement, vous pourriez être en possession d'une brique. D'un truc qui ne servira plus à rien.
Un frisbee, hein, ton disque de Destiny, tu peux déjà aller dès aujourd'hui jouer au frisbee avec. Hein.
Oui, voilà. c'est ça sont
et, les... la, et la boîte de Destiny, tu peux déjà t'en servir pour caler un meuble ou ta table.
Mais Destiny, voilà. Destiny, c'est un jeu qui était bon, même s'il était jouable hors ligne, qui était principalement axé sur
il n'était pas jouable hors ligne.
Hein ?
Il n'était pas jouable hors ligne.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un jeu qui a tout de suite été conçu avec le jeu multi en ligne en tête. Là, en l'occurrence,
solo, il fallait que tu sois connecté.
Oui, voilà, mais le problème dont je parle pourrait également toucher des jeux solo qui ne nécessitaient pas de connexion, d'être connecté en ligne pour être utilisé. C'est juste que la machine en elle-même ne fonctionnerait plus.
Ah, ça veut dire qu'on va avoir besoin de Tecos à l'avenir pour peut-être pallier à ce problème et modifier des consoles comme on peut le faire aujourd'hui, mais il faudra peut-être modifier sa PS4 à un moment donné pour pouvoir continuer à en profiter. Quoi.
Espérons que les MO5 et les sociétés du genre, justement, des Tecos, puissent faire ce travail-là de préservation, parce qu'en fait, là, ce qui est important de préserver, c'est pas le disque, c'est pas l'objet, c'est pas la boîte, c'est pas le truc, c'est le code. Voilà.
The Archive s'en occupera aussi, je pense.
Mais il y a déjà des associations très talentueuses qui font ça, mais vous vous rendez pas compte la quantité de travail que cela représente et les moyens nécessaires, etc. Regardez, vous parliez de la PSP et de son catalogue de jeux en partie des maths. Déjà, répertorier tous ces jeux, c'est un taf. Et en plus, réussir à mettre la main dessus... ça, c'en est un autre. Et ensuite, numériser tout ça et réussir à stocker quelque part de manière safe. Et ensuite, permettre aux gens qui souhaitent continuer à jouer à tous ces trucs-là sans aide du public, sans aide de peut-être même des États concernés, etc. Enfin, c'est impossible.
Moi, je peux te filer Wipeout Pulse, si tu veux. J'ai Killzone Libération aussi. Toi, c'est de la PSP, hein. Évidemment. Je dois avoir un petit Metal Gear. Je dois avoir... Wipeout Pulse, j'ai en double. C'est un truc de dingue, ça. J'ai même
t'as, le jeu, t'as le jeu stylo rose ou pas?
Le quoi?
Le jeu stylo rose de Johnny.
Ouais, tu l'as ou pas?
Ah non, je l'ai pas. Siphon Filter, tout ça.
Wipeout Pulse, c'est une version promo, elle m'intéresse.
Non, c'est pas promo, c'est les versions review. C'est encore plus rare.
T'as...
Justement, ta version review, si c'est une version review, elle m'intéresse.
Ce qui va m'intéresser, c'est ton blé vieux. Voilà, allez.
ce qui est un peu triste, c'est de se rendre compte que ces démarches de préservation, elles sont principalement prises pour l'instant par des associations ou par des joueurs lambda, etc. C'est quand tu vois Warner Bros. Pour le cas du ciné ou Universal, trucs comme ça, qui ont des vaults, enfin des coffres forts remplis de leurs bobines qui sont préservées, etc. On a l'impression que dans le jeu vidéo, ça fait pas encore partie des considérations et des problématiques auxquelles réfléchissent les fabricants même de consoles. On sait que par exemple, il y a des codes sources de jeux cultes qui ont été totalement paumés, quoi, et qui ne seront jamais retrouvés. Et ça, c'est un peu dramatique qu'on ne soit pas encore à un point où le jeu vidéo est considéré comme d'autres œuvres importantes.
On retrouvera bien des solutions plus tard, ne vous inquiétez pas.
Il y avait un slogan qui disait « les nouveautés d'abord ».
On va passer à la suite rapidement maintenant, ouais. Parce qu'il y a Johnny qui ronge pas son frein, mais il ronge son bic. Donc du coup, on va passer au thème numéro 2. Johnny, en quelques minutes, tu veux nous parler
Monster Hunter Rise. Alors, Monster Hunter Rise, donc, qui est le nouveau Monster Hunter, qui sort pour l'instant en exclusivité sur Switch. Ça sortira sur PC, mais on ne sait pas quand. En 2022, probablement. Et le jeu, il tape vraiment très, 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 très fort du poing sur la table. Et pourtant, ce n'était pas attaché, puisque le jeu passe après qui ? Après Monster Hunter World, qui est, s'il vous plaît, le best-seller de Capcom ever, devant Street Fighter, devant Resident Evil. Et je ne vous cite même pas les numéros des jeux. C'est dire. Voilà. Donc, ce jeu...
Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Tu nous en as déjà parlé en podcast.
Ah oui, oui.
Qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-là ?
Celui-là, il reprend la Formule World. Donc Monster Hunter, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu, on part à la chasse aux monstres par instance de 4. On chasse le monstre, une fois qu'on l'a désingué, on se fabrique une armure et une arme avec les restes fumants du monstre. Et on repart, on chasse un autre. Voilà, donc ça c'est le principe du jeu. World, qu'est-ce qu'il avait apporté à l'époque ? Une grande ergonomie. Il avait complètement révolutionné le truc. La formule qui n'avait pas bougé d'un iota depuis les débuts des années 2000, fin 90, elle avait vraiment évolué avec World et c'était devenu un vrai jeu de 7e génération de consoles avec une vraie ergonomie. Par exemple, on n'avait plus besoin de sélectionner la pioche pour aller miner un gisement. Voilà, la pioche elle sortait toute seule et le gisement se menait. Bref, il y avait eu tout un tas d'améliorations qui avaient vraiment transformé le jeu et qui l'avaient rendu juste exceptionnel. Et sachez que toutes ces transformations-là dans Rise, elles vont encore plus loin. C'est-à-dire que le jeu Monster Hunter Rise, c'est pas un vieux Monster Hunter comme le cross-génération auquel vous aviez eu droit sur Switch il y a quelques années. Là, ce coup-ci, on est vraiment sur une formule qui vient pomper celle de World. Et on est sur un produit similaire. C'est-à-dire que toute l'ergonomie qui a été améliorée dans World, elle est encore améliorée dans Rise, et on va même encore plus loin. Par exemple, dans World, on avait introduit un grappin. Le grappin, il est encore plus dynamique dans Rise. Je vous ai parlé de la pioche pour piocher les gisements de minerais. Dans World, il fallait piocher 3 fois. Dans Rise, on n'a plus besoin de piocher qu'une seule fois. Dans Rise, qu'est-ce qu'on vous donne aussi ? On vous donne, un animal, un chien. Vous avez un chien maintenant. Donc ce chien va pouvoir vous permettre de pouvoir vous déplacer plus vite. Et quand vous êtes au dos du chien, vous pouvez aiguiser vos armes, vous pouvez ramasser les trucs. Enfin bon, bref, toute cette ergonomie-là qui avait été grandement améliorée dans Monster Hunter World, ça va encore plus loin dans Rise. Donc on est vraiment un cran au-dessus. Alors que pourtant, on pourrait se dire, on est sur un jeu Switch, la Switch c'est pourri, c'est moins bien qu'une Play. Non, pas du tout. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est bien et qui va encore plus loin que World en termes de jouabilité. Je suis sur la jouabilité, j'en continue là-dessus. On a par exemple des nouveaux coups sur les armes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le grappin, je vous en ai déjà parlé. Il dynamise vraiment les combats, le grappin. Les nouveaux coups. Par exemple, je vous donne l'exemple des double épées. Les double épées, le coup, c'était le coup sur rond. Sur Switch. C'est un coup tournoyant où le bonhomme se met à tourner avec ses épées. Là, on a un nouveau coup où on va pouvoir avoir une attaque verticale où le bonhomme il va partir en l'air et faire une roulade en avant. Donc, c'est super pratique si on se bat contre un gros monstre. La jouabilité, elle était déjà améliorée dans World, elle est encore plus améliorée dans Rise, et ça, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Sur les maps, on a des cartes qui ressemblent encore une fois à celles de World, qui sont même inspirées en termes de design de celles de World, c'est-à-dire qu'on va avoir un désert, une forêt, un champ de neige, etc. Elles sont très verticales, beaucoup plus verticales que dans World. Pourquoi ? Parce que on a le grappin. Et du coup, quand on est au fond d'un ravin, on peut remonter. tout en haut avec son grappin. Et ça, c'est assez stylé. Il y a un truc qui disparaît par contre, et ça, ça me gêne un peu. Ça fait partie des petits reproches que je fais dans l'exploration. C'est dans World, on avait les Navicioles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était des espèces de petits insectes qui suffisaient de suivre pour nous.
Ils nous indiquaient le chemin, oui.
Voilà, bah eux, ils ont disparu. Alors, je pense que c'était peut-être un peu compliqué de les afficher sur Switch, je ne sais pas. Eux, ils ne sont plus là. C'est dommage parce qu'ils pouvaient vraiment t'aider à trouver l'endroit où était le monstre et à trouver le bon chemin. Mais bon, là, avec le grappin, en fait, en vrai, on peut aller un peu où on veut, comme on veut. Donc, au final, ça pose plus tant de problèmes que ça.
Mais est-ce que c'est pas compensé par le level design qui est peut-être plus
logique le level design est plus vertical. Voilà, vraiment. Les maps sont un peu plus petites et plus verticales. Donc, tu vas pouvoir vraiment te balader un peu plus facilement à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc, j'ai parlé du gameplay, j'ai parlé des maps. Je peux vous parler de l'aspect RPG, donc qui va toujours être extrêmement complet. Hein. Moi, j'ai joué au jeu comme ça, c'est-à-dire que j'ai passé un peu de temps à me forger mes armes pour, avant d'aller combattre les monstres suivants. Du coup, quand on fait ça, ben, on se rend le jeu un peu plus facile, hein, forcément. Voilà. Si vous êtes en galère, vous pouvez jouer à 4 avec vos amis, etc. Ça ne change pas. On a toujours des arrivées et des départs qui se font à la volée dans les missions. Bon, bref, le mode en ligne, il est vraiment toujours au top.
La technique sur Switch, du coup ?
Ouais.
Je vais
terminer là-dessus. Donc, le jeu, il s'est spécificité Switch. Donc, déjà, le premier truc, c'est la technique. Donc, la technique, elle est bonne, franchement. Moi, je pense qu'on est face à peut-être un des plus beaux jeux de la console, de la Switch. Alors, quand on est sur portable, tout tourne très bien. OK, on a une résolution pourrie. OK, les modèles 3D, c'est pas trop ça. Mais franchement, ça tourne. Et c'est plutôt beau, moi, je trouve. Surtout qu'en plus, on a un design qui a changé, qui a évolué dans le jeu. Et je terminerai là-dessus. Et je trouve que c'est peut-être un des points les plus forts de l'évolution de ce Monster Hunter Rise. C'est-à-dire qu'avant, on était sur un univers à la Seigneur des Anneaux. Moyen-âgeux, science, héroïque, fantasy très classique, bah là on passe sur un univers Japon féodal. C'est-à-dire que tout est japonisé, des musiques aux monstres en passant par les décors, tout s'inspire du Japon féodal et c'est très 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 classe. Les musiques sont chantées, c'est très beau. Le design des personnages, des armures, etc. s'en inspire. Il y a quelques monstres qui le sont aussi et les décors sont très très beaux. Je prendrai pour exemple la première zone. La première zone, qu'est-ce que vous avez droit ? Vous avez droit aux montagnes de Hokusai avec la neige au loin dessus. Vous avez droit au temple Tsunoya, etc. Non, c'est vraiment super super classe en termes de design et je pense qu'ils ont fait ça pourquoi ? Bah, pour se ramener une nouvelle frange de joueurs, hein, tout simplement. Voilà. Donc, si je dois résumer, Monster Hunter Rise, qu'est-ce que c'est ? C'est un gameplay qui va encore plus loin que celui de World. Franchement, c'est top. Que ce soit au niveau action ou RPG. C'est un design qui est fantastique, en fait. Le Japon féodal, c'est vraiment très, très beau et ça donne envie d'y jouer. Voilà. Et à côté de ça, c'est un jeu avec une durée de vie de folie, etc. Et les spécificités de cette version Switch, je pense qu'on peut extrêmement satisfait de voir ce jeu tourner sur cette console, d'y jouer en mode nomade ou même en mode télé, ça se passe plutôt bien. Forcément, c'est moins bien que sur Play 4, mais on va pas bouder notre plaisir. Voilà. Je conseille fortement de jouer à ce jeu.
Très, okay. Très bien. Voilà. Bon, écoute, tu nous as dit l'essentiel. Il arrive ce vendredi 26 mars sur Nintendo Switch, plus tard sur PC. Évidemment, on imagine que si ça marche bien, il aura droit à des DLC, des extensions, etc. De toute façon, Capcom va continuer à l'entretenir pendant un petit moment.
Alors, le jeu, il y aura un entretien gratuit qui va être fait pendant plus d'une année. Si on se rappelle World, on a eu pas mal de nouveaux monstres qui sont arrivés pendant un an avant la grosse extension Iceborne, qui, elle, était payante. Voilà. Ouais. Puis il y a de la match gratuite. Hein.
On n'oubliera pas non plus qu'il y aura forcément des collaborations avec, avec d'autres licences, d'autres jeux.
Devil May Cry, tout ce que tu veux. Ouais. Tout Capcom risque d'y passer.
Bon, écoute, toi, on va éviter justement que tu y passes et on va te dire bonne journée.
Des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, les mecs.
À très bientôt, Johnny.
Jouez bien, ciao, ciao. Bisous, bisous.
Est-ce qu'il a réussi ? Oui, il a réussi du premier coup. Du coup, on va pouvoir passer très rapidement
aux insultes. Thème. On va pouvoir dire du mal de lui maintenant.
Au dernier thème de la semaine. Thomas, tu es en train toujours de tester un jeu qui s'appelle Kaze and the Wild Mask, donc qui est un jeu de plateforme qui a l'air très intéressant. Oui, Romain.
Juste un truc que je viens de voir, ce qui me vient de popper sur Twitter, qui colle avec ce que Johnny était en train de raconter. Apparemment, il y a une société japonaise qui a fait un jour férié interne le 26 mars prochain.
Ouais.
Parce qu'ils pensent qu'ils seront incapables de se concentrer à cause de la sortie de Monster Hunter Rise sur Switch, donc c'est assez rigolo.
C'est le nouveau Dragon Quest.
Très bien, eh ben, écoute, on va pouvoir passer donc, au test, comme prévu, Thomas. Oui. Le test de Kazé and the Wild Mass, donc, qui est un jeu qui t'intéressait beaucoup parce que c'est un jeu de plateforme, donc forcément la plateforme ça te parle, et qui a-t-il les qualités suffisantes pour te séduire ?
Alors, c'est compliqué parce que quand on s'attaque à un des plus grands jeux de plateforme 2D des années 90, à savoir Donkey Kong Country 2, en l'occurrence, il faut placer la barre quand même assez haut. Donc c'est ce que les développeurs ont essayé de faire. C'est le premier jeu de Pixel Hive, donc ce Kazé and the Wild Masks. Mm-hmm. Et pour le dire assez vite, eh bien, il reprend absolument tout. Les éléments de gameplay de la trilogie de platformer de Rare, du Rare de la grande époque. Donc, pour vous la faire rapide, on est aux commandes d'une lapine, Kazé, qui va devoir eh bien, secourir son bel âtre, kidnappé par un bien vilain antagoniste. Et pour ça, eh bien, il va falloir traverser quelques dizaines de niveaux de pure plateforme 2D, hein, avec du saut, du rebond sur les ennemis, des cordes, des passages sous-marins, bref, beaucoup de choses très très classiques. Mais la petite subtilité, eh bien, ce sont justement l'ajout des masques, les masques qui eh bien, permettent de changer de style.
En fait, ouais,
cette lapine va devenir par exemple un requin, un volatile, ce genre de choses, et du coup ça transforme évidemment le gameplay. On va avoir beaucoup plus d'aisance pour se déplacer sous l'eau, pour se déplacer dans les airs, et en fait bah, ça remplace le système de buddies qu'il y avait dans les Donkey Kong Country, sauf que là eh bien, on conserve le même personnage et on se transforme, et en fait plus on y joue et plus on se dit que vraiment tous les éléments sont là. On a 4 lettres à récupérer dans chaque niveau, K, A, Z, E, pour débloquer justement une espèce de gemme à la fin. Il faut qu'on récupère aussi 100 cristaux pour valider une des autres étapes. Et on a également des petites zones bonus qui sont cachées, qui vont nécessiter des fois de sauter dans un trou qui avait l'air un petit peu plus louche que les autres, et donc arriver sur un espèce de mini-jeu qui va durer 15-20 secondes, qui va demander de vider tous les ennemis ou de récupérer un item qui va changer de place, bref.
Rassure-moi, il n'y a pas de niveau en chariot qui ressemble exactement à ceux de Donkey Kong Country.
Non, par contre, tu as une des transformations qui te permet de courir et qui, bah, des fois, en fait, active une course automatique. Donc, tu n'as pas de chariot à proprement dit, mais en termes de gameplay, en termes de mécanique, on va retrouver aussi un petit peu cet emprunt-là. Et ils sont vraiment allés chercher. Enfin, ils ont copié énormément de choses. Ça va de la manière de se suspendre aux cordes avec les deux grandes oreilles de la lapine Kazé qui font évidemment penser à la chevelure de Dixie, et même le premier boss, puisqu'il y a un boss qui vient conclure évidemment chacun des mondes, reprend des patterns de King K. Rool à la fin de Donkey Kong Country 2. Enfin, bref, à un moment donné, on se demande en fait où s'arrête l'hommage et où commence la copie, en fait, parce que aussi joli, plaisant et sympathique soit-il à prendre en main, eh ben en fait, Kazé and the Wild Masks a pas beaucoup d'identité propre. Il n'y a pas vraiment d'éléments tout à fait nouveaux qui viennent justement transformer un petit peu l'expérience. On est sur de la redite, en fait. Alors, pour ceux qui chercheraient justement à retrouver les sensations vraiment quasi strictement similaires à un Donkey Kong Country, ça va faire le taf, puisqu'on est vraiment face à quelque chose d'extrêmement similaire. Pour ceux qui attendraient d'être surpris, on reste quand même un petit peu sur sa fin, parce que malgré justement les différents items, les collectibles à récupérer dans chacun des niveaux, le fait qu'il y a un chrono qui s'ajoute aussi une fois qu'on l'a terminé, ça c'est un emprunt à Donkey Kong Country Returns, on s'éloigne jamais trop de la formule, au bout d'un moment, en fait, on se rend compte que eh ben, le jeu est très scolaire finalement, il est vraiment dans l'hommage, et à aucun moment il va ne chercher à prendre véritablement des risques. Alors il reste très joli, on a une animation qui est vraiment travaillée, on a des backgrounds qui sont par moments magnifiques, on est sur du pixel art vraiment, vraiment très chouette, mais en termes de sensation, on a vite l'impression de tourner en rond, d'autant plus que le level design n'est pas toujours vraiment au poil. Il y a quelques petits accros, quelques petits clous qui dépassent encore et qui rendent la chose parfois un petit peu frustrante. C'est jamais très long, mais voilà, il n'y a pas un peaufinage au niveau de l'illustre aîné dont il s'inspire. Et du coup, bah, au final, on reste un petit peu sur sa fin parce qu'on attendait quelque chose, on attendait une proposition, et en fait, on est plus dans un hommage, voilà, vraiment appliqué finalement, sans prise de risque, sans réelle identité. C'est forcément un petit peu dommage pour ceux qui attendaient justement ce platformer 2D vraiment très joli et très prometteur lors de ses premières bandes annonces. Voilà, moi je l'ai trouvé satisfaisant. Voilà, c'est 6 sur Gameblog parce que vous allez passer un bon moment. Mais pas plus. Il n'y a vraiment pas d'ajout particulier. Il n'y a pas ce petit supplément d'âme qui fait qu'on va le retenir pour autre chose que ce qu'il est, à savoir un espèce de joli copier-coller d'une formule qui marchait merveilleusement bien. Mais c'est aussi le problème quand on s'attaque à un classique du genre, c'est qu'il aurait fallu au moins espérer être à la hauteur, en tout cas être au même niveau, ce qui est déjà très compliqué. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors si la seule petite différence que j'ai pu remarquer en termes de mécanique, c'est que là pour le coup, on n'a pas besoin de maintenir le bouton de course. En fait, le personnage court un petit peu tout seul, mais vous qui avez un petit peu aussi de bouteille en la matière, on a quand même tendance à mécaniquement appuyer dessus. C'est un petit peu un réflexe quand même depuis Super Mario Bros. De maintenir le bouton de course. Ça fait plus de 35 ans qu'on le fait, donc on a du mal à s'en détacher. Et je crois que c'est la seule vraie différence que j'ai réussi à relever en termes de mécanique de gameplay. Donc c'est vous dire à quel point le jeu est quand même un espèce de copier-coller, un joli copier-coller, mais voilà, sans beaucoup, beaucoup de saveur au final. Donc je le conseillerais à ceux qui ont vraiment envie de se mettre un platformer 2D sous la dent en ce moment, s'ils n'en trouvent pas d'autres. Mais voilà, il ne faut pas s'attendre à y trouver quelque chose de particulièrement savoureux.
Bon, très bien.
Soyez prévenus.
Très bien, donc on retiendra. Le jeu est déjà disponible, il arrive quand?
Alors, il sort aussi ce vendredi, là, 26.
Voilà, les jeux du 26 mars, donc encore
avec
un autre.
Monster Hunter Rise.
C'est marrant qu'il y ait eu un jeu qui s'inspire, pour utiliser le mot inspiré, si clairement de cassé, parce que il me semble, mon petit doigt me dit qu'un autre jeu bientôt annoncé s'inspirera très fortement aussi de Donkey Kong Country. Donc faut croire que c'est dans l'air du temps.
Passionnante. Oui, et puis souviens-toi, je crois que c'est en 2019, on a eu Yooka-Laylee and the Impossible Lair, qui était lui aussi justement une réinterprétation des Donkey Kong Country.
Après, il y avait du rare dans
chez Playtonic.
Donc là, non, ça s'explique un peu plus. Mais bon, on le dit souvent, on l'a déjà dit pour d'autres jeux. Quitte à s'inspirer de quelqu'un, autant de s'inspirer des meilleurs. Et si tu le fais bien, pourquoi pas?
Là, il y avait mieux à faire, en l'occurrence.
Bon, écoutez, voilà, vous êtes prévenus donc pour Casey and the Wild Mask. Et c'est ainsi que s'achève ce podcast 560, tout simplement, auquel nous avons pris beaucoup de plaisir à participer, comme d'habitude. Merci de votre fidélité. Merci à tous les participants, que ce soit Johnny, le disparu, Thomas,
non,
Romain. Si.
Il est plus là, on n'a plus besoin de faire semblant d'avoir l'air aimable.
Ok, d'accord, donc pas de Johnny. Poufy, évidemment, toujours à la sono. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Alors peut-être pas avec Trazem ou moi, on verra. Je ne sais pas comment on va se débrouiller la semaine prochaine.
Spence.
Ouais, ça sera une spéciale.
On va mettre deux petites bougies et Thomas et moi, on va se parler comme ça pendant une heure.
Puisque nous devrions être absents avec le patron. Donc on verra bien comment ça se passe. Donc, une fois de plus, comme à chaque fois, on vous dit à la semaine prochaine. Et surtout, faites super gaffe à vous. Ciao.
Ciao.